Radio Spirale. Selon Christian Nadeau, Stephen Harper est l'un des acteurs les plus influents d'un vaste mouvement visant à démanteler une à une les valeurs progressistes qui ont eu préséance au cours des 40 dernières années et à leur substituer les valeurs d'une nouvelle droite. En octobre 2010, il s'entretenait avec Lawrence McPhail de son livre « Contre Harper, bref traité philosophique sur la révolution conservatrice ». La rencontre avait lieu à la librairie Olivieri.
I have not come to praise Caesar, but to bury him. Je ne suis pas venu pour faire l'éloge de Stephen Harper, mais pour l'enterrer. Je dois insister sur cette phrase parce que tantôt, je vais peut-être être appelé quand même à faire l'éloge parfois de Stephen Harper, jouer le rôle de l'avocat du diable, parce que là, on est face au diable. Je m'appelle Laurent McPhail, je suis professeur de sciences politiques et j'ai le rôle d'animer cette soirée de lancement et de causerie autour du livre de mon collègue et de mon ami Christian Nadeau, livre qui s'appelle « Contre Harper ». Je vous souhaite la bienvenue à ce public nombreux et je souhaite aussi la bienvenue aux auditeurs futurs qui vont écouter ce débat, cette causerie sur la radio spirale. Je vais essayer de parler le moins possible et ne pas voler la vedette à Christian Nadeau, mais je vais quand même dire deux petits mots, puisque je me suis quand même tapé son livre. Et donc, comme je lui ai dit tantôt, juste avant, quand je l'ai lu au tout début, ma première impression était une de jalousie, parce que c'est un livre qui est écrit dans des phrases qui comptent environ 10 à 20 mots chacun. Et c'est écrit dans une limpidité avec des tournures de phrases merveilleuses, juste pour en citer une. Lorsque les budgets volent bas, il y a des chances qu'il pleuve bientôt. C'est carrément poétique. J'ai beaucoup aimé le style du livre, mais dans un premier temps, j'étais un peu énervé par le livre. Non pas par les sales coups de notre premier ministre, non pas par tous les discours hypocrites ou même non hypocrites, c'est justement ça le pire. J'étais plutôt énervé par le fait que, dans un premier temps, j'avais l'impression que je n'apprenais rien. Christian me récitait des faits bien connus. Puis, en même temps, il entretenait un discours philosophique, il mettait en relation notre actualité canadienne, notre triste actualité, par rapport à un discours sur la justice sociale, sur les finalités de la vie en société, la bonne gouverne, etc. Et là aussi, j'avais l'impression, ce sont des choses que je connais. Mais après, à ma deuxième lecture, je me suis rendu compte, comme disait mon grand héros Max Weber, le véritable génie est quelqu'un qui arrive avec des faits connus et des arguments connus à dire quand même quelque chose à laquelle on ne s'est pas attendu. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Christian, parce que quand j'ai dit à Christian, j'étais énervé dans un premier temps, il a dit « Effectivement, c'est un genre très difficile que je lance ici. C'est un livre qui veut plaire au grand public, mais qui veut aussi être philosophique. Et bien sûr, on ne plaît jamais à personne. Les philosophes vont dire « Ah, c'est populaire ». Les journalistes vont dire « Ah, où est la révélation sensationnelle ?» Alors, il s'est mis vraiment un handicap en écrivant ce livre, et pourtant, il l'a fait. Et c'est avec beaucoup d'admiration pour Christian qui persiste et signe, qui prend sa place sur la place publique. C'est un philosophe, un intellectuel engagé, et c'est aussi quelqu'un qui parle très bien, donc vas-y, parle-nous.
Merci Laurent, merci tout le monde d'être ici ce soir. Écoutez, je serai assez bref parce que ce qu'on a prévu, c'est d'échanger d'abord un peu Laurent et moi. Moi, je vais faire une brève présentation, mais surtout ce qui m'intéresse, moi, ce sont vos questions et vos remarques afin qu'on puisse échanger. Donc, il y aura une période de temps aussi consacrée donc à la discussion. Et ça, c'est une tradition, disons, chez Olivieri. Simplement pour expliquer le projet du livre, en fait, le projet du livre, y a d'abord un événement personnel, tout simplement, le décès de mon beau-père, qui est un homme qui s'est installé ici dans les années 50 et qui vient de la République dominicaine et qui a fui la dictature. Et en fait, pour moi, c'est important de... Il est décédé tout récemment et c'est important de lui rendre hommage, mais... Il se trouvait que, j'avais en tête d'écrire ce livre sur Harper depuis longtemps, et puis je me rendais compte, en fait, que même s'il est évident que nous ne sommes pas dans une dictature et que nous ne serons jamais dans une dictature, enfin, on ne peut pas dire jamais, mais on a de bonnes raisons de croire que nous ne tomberons jamais dans une dictature, il n'en demeure pas moins qu'en ce moment, il y a une dégradation des institutions. Il y a une dégradation des institutions, laquelle contamine, en fait, notre tissu social, nos relations sociales, ce qui fait en sorte que nous sommes de plus en plus vulnérables à cette maladie ou à ce cancer généralisé comme on pourrait le décrire, que sont les conservateurs à l'heure actuelle. Et en quoi je vois essentiellement les conservateurs comme une maladie, je les vois à la fois comme une maladie qui nous infecte, qui change le rapport des choses que nous avons, et qui affaiblit tous nos systèmes immunitaires, à commencer par nos institutions. Donc par exemple, pour un exemple parmi d'autres, la liberté d'expression, qui devient de moins en moins garantie dans notre société aujourd'hui. Les gens ont de plus en plus peur, peut-être pas peur de dire ce qu'ils veulent dire, mais il y a une telle prudence affichée que graduellement le propos est complètement dilué, de telle façon qu'il n'y a plus aucune force de frappe dans ce qu'ils veulent dire. Donc pour moi, c'était très important de faire cet essai, parce que je voyais que ce qui se passe en ce moment est au-delà de la logique du clivage des partis ou de la gauche et de la droite. On n'est plus simplement dans un rapport entre les conservateurs versus les libéraux versus etc. etc. Là, je crois que en fait, bon nombre de conservateurs à l'heure actuelle, bon nombre de personnes à droite ne doivent même pas se reconnaître dans le parti conservateur d'aujourd'hui, parce que précisément, je pense que ce sont des gens qui considèrent que avant d'épouser, si j'ose dire, une idéologie ou un clivage à gauche ou à droite, ce sont des démocrates. Moi, par exemple, je n'ai absolument aucun mal de me ranger ou de me définir à gauche. J'ai peut-être tort de me concevoir comme si, peut-être que je ne le suis pas suffisamment, mais je n'ai aucun mal à me placer à gauche. Simplement, je suis démocrate avant d'être à gauche. Et ce que je vois en ce moment, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'avec le gouvernement Harper, c'est les conditions même d'existence de la démocratie qui sont remises en cause. Et graduellement, en fait, même s'il y a un objectif derrière ça, c'est de faire valoir les principes de la droite, c'est une droite que bon nombre à droite ne reconnaîtrait plus, ou dans laquelle ils ne se reconnaîtraient plus. Alors pour bien comprendre ça, il ne s'agit pas simplement de vérifier l'ensemble des politiques et des actions qui ont été faites par ce gouvernement au cours des dernières années. Je crois que c'est une chose importante, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut voir, en fait, pour bien voir ce qui démarque l'équipe Harper des autres partis politiques, c'est essentiellement qu'ils ont un vrai programme. Alors, je vais peut-être être sévère pour les autres partis, mais si je devais écrire le même livre sur, par exemple, les libéraux ou sur le NPD, ou voire même sur le Bloc, j'aurais probablement beaucoup de difficultés. Parce qu'en fait, on n'assiste pas à la même cohérence. Il y a beaucoup d'idées qui sont soulevées par les conservateurs en ce moment, il y a beaucoup de principes, et ils ont une manière très, 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 très systématique, très intelligente, en fait, de les concevoir. Je ne dis pas que tous les conservateurs sont des gens extrêmement brillants, ce n'est pas ça le propos. Simplement, ce que je dis, c'est que ce qui fait que ça marche en ce moment, c'est parce que, précisément, je crois que c'est fondé sur des principes et qui sont cohérents par rapport à leurs principes. Autrement dit, ils ne sont pas simplement dans une politique partisane ou à coup de stratégie à courte vue. Je pense qu'au contraire, c'est des gens qui sont des idéalistes. Ils croient à leurs idéaux, mais ce sont aussi des pragmatistes, c'est-à-dire que leur façon de faire fait en sorte que graduellement, leurs idéaux, ils atteignent leurs objectifs. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Maintenant, rapidement, pourquoi est-ce que ça intéresse un philosophe politique ou un philosophe qui travaille sur des questions de politique? Alors, la réponse peut sembler évidente parce qu'il s'agit de politique. Mais en fait, pas vraiment. Ce qui fait de la différence, en, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui travaille en Sciences Po ou quelqu'un qui travaille en philosophie, c'est que nous, ce qui nous intéresse d'abord et avant tout, ce sont les principes, les concepts, les idées. De sorte que nous sommes toujours un peu maladroits sur le plancher des vaches. Je ne dis pas que tous mes collègues philosophes sont maladroits sur le plancher des vaches. J'en connais qui, au contraire, sont très à l'aise. Mais ce n'est pas notre domaine d'expertise. D'accord. Donc, par exemple, lorsque je parle du Sénat ou lorsque je parle, je ne sais pas moi, de la prorogation ou lorsque je parle de certains comités du Parlement, il est évident que je n'ai pas l'expertise de quelqu'un qui, en sciences politiques, par exemple, travaille sur le système fédéraliste canadien. D'accord. Donc, je n'ai pas du tout cette expertise et je ne prétends pas l'avoir. En revanche, je crois que malgré tout, il y a deux raisons importantes, une forte et une faible, qui motive un travail comme le mien. La raison faible, en gros, c'est de dire « bon qu'à ça ». Vous savez, Samuel Beckett, on lui demandait un jour « pourquoi êtes-vous écrivain ?» et il répondait « bon qu'à ça ». Bon, je ne sais pas si, je ne peux certainement pas prétendre être aussi bon que Beckett à ce qu'il fait, parce que Samuel Beckett est le plus grand écrivain du XXe siècle, puis d'ailleurs, je vous conjure d'acheter toute l'œuvre de Samuel Beckett qu'il y a dans cette librairie avant de sortir. Mais je dirais que, comme je conçois mon travail en partie aussi comme celui, non seulement d'universitaire, mais aussi comme celui, disons, d'intellectuel engagé, bah, la spécificité de mon travail comme intellectuel engagé, le terme est peut-être un peu pompeux là, mais la spécificité de mon travail, c'est celui de la philosophie. Donc c'est par la philosophie que je peux faire œuvre de militantisme. Donc c'est par les arguments que je tente de faire ce travail de militantisme. Deuxième, ça c'est disons la raison faible. La raison forte, c'est que je pense que dans le cas de Harper et des conservateurs, c'est que précisément ce qui devrait nous préoccuper, ce sont leurs idées. À la rigueur, lorsqu'ils échouent dans certaines tentatives ou lorsqu'ils n'arrivent pas à réaliser certains de leurs objectifs, par exemple le registre des armes à feu, alors il faudrait toujours y voir, et dans leur victoire et dans leur défaite, des épiphénomènes, c'est-à-dire des manifestations qui sont importantes, certes, qui nous permettent de vérifier ce qu'ils ont fait, mais ce qui compte, ce sont vraiment leurs motivations. Et leurs motivations sont fondées sur des principes, et ces principes, je les analyse comme s'il s'agissait d'une philosophie, c'est-à-dire un discours argumentatif très clair, très cohérent, très systématique. J'ai mis de côté le terme idéologie, même si, bon, on peut en discuter si vous voulez, mais c'est des discussions techniques, essentiellement parce que pour moi, je reprends la conception marxiste de l'idéologie selon laquelle, en fait, les individus qui parlent au nom d'une idéologie ne sont pas les auteurs de cette dernière. Alors que là, ici, on a vraiment une pensée qui est constituée, qui leur est spécifique, qu'ils ont développée depuis de nombreuses années. Et je vous invite, par exemple, dans le livre, je parle d'une conférence de Harper qu'il a fait devant le groupe Kiwitas en 2003. Et à mon avis, c'est un texte qui devrait paraître dans n'importe quelle anthologie de sciences politiques. C'est vraiment un bijou de clarté. Et c'est ce qu'il dit en 2003, c'est exactement ce qui leur a permis de prendre le pouvoir et ce qui va probablement leur permettre de le conserver, à moins que, enfin, on ne décide comme société de mieux réagir. Donc je vous remercie.
Merci Christian de ce premier aperçu du livre. On aura l'occasion d'entrer un peu dans le détail, j'espère. Mais je lancerai, et comme ça je vous donnerai aussi l'occasion de préparer vos questions et vos coups bas, mais je lancerai une première question à propos de cette analogie ou ce métaphore que tu as utilisé tantôt pour décrire le conservatisme comme une maladie. Et justement, une des choses qui m'a frappé dans le livre, c'est qu'en fait, on fait l'éloge de Stephen Harper. C'est moins une maladie que, comme tu viens de le dire, un projet ficelé, cohérent, orienté, défendu, etc. Et si c'est une maladie, c'est un virus bien méchant. Mais pour qu'un virus prenne, pour rester dans la métaphore, il faut que le corps soit affaibli. Et ce qui m'a frappé dans le livre à plusieurs reprises, c'est non seulement le nombre de fois, et nous le savons tous, que les conservateurs, en tant que gouvernement minoritaire, ont réussi grâce à la faiblesse de leurs opposants. Mais ce n'est pas juste une faiblesse d'organisation partisane, de stratégie, de personnalité à leur tête, c'est une faiblesse fondamentale du libéralisme. Par ailleurs, au début, et quand je dis libéralisme, libéralisme avec un petit L, non pas du Parti libéral, et notamment, il y a je vais citer une phrase sur la page 13 qui résume à peu près ton argumentation. Stephen Harper n'est pas seulement le premier ministre du Canada, il est aussi le principal représentant et probablement l'un des acteurs les plus influents d'un vaste mouvement visant à démanteler une à une les valeurs progressistes qui ont eu préséance au cours des 40 dernières années. Et j'arrête là, parce que quand j'ai lu cette phrase, j'ai dit, quelle valeur progressiste? C'est quoi ce mythe de ce beau et grand pays, le Canada, qui était sain jusqu'à ce que les méchants conservateurs arrivent? Or, on peut très bien aussi lire cette histoire autrement, comme le libéralisme au Canada ayant toujours été assez faible, que c'était toujours un pays assez gouverné par des intérêts, par un anti-américanisme dans le pire sens du mot. Donc, il y a toutes sortes d'arguments, mais en plus, je vais peut-être arrêter là de te donner la chance de répondre et je vais lancer d'autres projectiles tantôt.
Merci. Alors, très rapidement, pour expliquer la métaphore de la maladie, mais là, je vais me faire taper dessus par ceux qui s'y connaissent en informatique. Je le vois un peu comme un virus Internet. En gros, si j'étais, disons que j'étais, si j'étais un technicien en informatique, là, ou quelque chose de semblable, et puis je vois qu'on a construit ou on a fait un virus, je ne sais pas si même ça se fait un virus, mais il me semble que oui, là, c'est quelque chose qui n'apparaît pas out of the blue. Et je pourrais très bien imaginer, par exemple, un système qui permet de contaminer un certain nombre de protections, par exemple, d'un site. Par exemple, un site du gouvernement ou quelque chose comme ça. Alors, en gros, je pourrais dire c'est affreux, d'accord, mais être admiratif de la beauté de la chose. Hein, de la même façon que, je ne sais pas, moi... il y a des moments où on va regarder, par exemple, certains coups d'éclat politiques qui ont été faits, et puis on est admiratif, même si on est horrifié. Par exemple, je sais pas, moi, je suis... en fait, ce que je veux dire par admiratif, c'est que j'aimerais que, disons, de mon côté des choses, c'est-à-dire du côté non-conservateur, pour faire simple, il y a la même envergure, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes prétentions. Et par les mêmes prétentions, je ne prétends pas la même volonté d'imposer une vision homogène des choses, mais simplement que si, par exemple, le Parti libéral méritait son nom et que c'est un défenseur des libertés individuelles, alors qu'il l'affiche et qu'il le revendique haut et fort, et qu'il ne le fasse pas de manière détournée ou avec on ne sait trop combien de discours qui, finalement, se contredisent les uns les autres. D'autant plus que, par exemple, le Parti libéral, en principe, il y a un intellectuel qui y travaille en ce moment. C'est quand même assez étonnant de voir qu'il y a davantage de philosophie politique du côté conservateur que du côté libéral en ce moment. Alors que du côté libéral, normalement, il y a un type qui a fait de la philosophie politique une bonne partie de sa carrière. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Maintenant, pour ce qui est du système immunitaire, pour ce qui est de la maladie relative au système immunitaire, la façon dont je vois ça, c'est que c'est pas simplement une faiblesse des opposants. C'est trop facile de mettre la faute sur le dos des libéraux ou, par exemple, du bloc. Par exemple, beaucoup de gens m'ont dit « Oui, mais Christian, tu vois bien que c'est la présence même du bloc qui fait en sorte que il est très clair que les conservateurs vont rester au pouvoir tant ou aussi longtemps qu'il y aura cette division du vote, étant donné l'existence du bloc. » Je suis pas sûr que, bien sûr, je ne peux pas faire comme si cet argument n'avait aucune valeur. En revanche, il me semble qu'il y a un problème si on voulait voter pour un parti libéral en se disant « anything but », c'est-à-dire tout sauf les conservateurs, au point où on est prêt à tout accepter de la part d'un autre parti. Si les libéraux se présentent au pouvoir et en gros ont un programme politique qui est à peu près semblable à celui des conservateurs, on n'aura absolument rien gagné. Moi, ce que je veux, c'est qu'en fait, qu'on se débarrasse de ce que représentent les conservateurs. Tout ce qui empêche le bon fonctionnement des institutions démocratiques. Enfin, pour la question des valeurs progressistes, je ne suis pas naïf au point de croire que notre pays, a toujours été le chantre des grandes traditions et des grandes valeurs, etc. On a notre part d'hypocrisie, ça je n'en ai absolument aucun doute. En revanche, je n'ai, à ma connaissance, en tout cas, je n'ai jamais vu revendiquer des principes comme ceux dont se réclament les conservateurs. C'est-à-dire que, par exemple, c'est ce dont je parle dans le livre, dans la conférence de Civitas, Harper, devant le groupe Civitas, Harper dit « Écoutez, il faut qu'on cesse le combat contre le socialisme, parce qu'on a déjà gagné. » C'est-à-dire, en gros, il faut qu'on cesse de s'énerver sur des chimères, parce qu'en face, ils tiennent exactement le même discours. Bien sûr, ils font semblant de tenir un discours de centre, mais ils sont pas plus au centre que nous, ou alors on finit tellement par... Bref, on n'a pas à s'occuper de ça. En revanche, il faut être prudent, il faut surveiller pour éviter que quelques libéraux soient trop tentés par l'État-providence, mais, dit Harper, depuis Reagan et Thatcher, on a gagné. C'est fini. Il n'y a plus de parti socialiste qui peut se réclamer du socialisme. C'est plus un problème. Là où il faut se concentrer, là où il faut faire quelque chose qui va vraiment nous démarquer de nos opposants, c'est au niveau de nos valeurs. On pense que notre société est minée par un pluralisme, et ce pluralisme, en fait, c'est une forme de relativisme. Autrement dit, sous prétexte de vouloir avoir de la place pour que chacun puisse avoir une opinion différente, d'accord ? Sous prétexte, par exemple, de respecter les droits des homosexuels, sous prétexte de... etc., etc. En fait, on est dans le pur relativisme. Et il donne un exemple de ça, il dit « Regardez le conflit en Irak ». Il dit « Ce qui se produit en Irak en ce moment, c'est que les Canadiens veulent à la fois voir un dictateur être renversé, mais en même temps, ils sont contre la guerre. » Il dit « Ça, c'est du relativisme. » Ils sont tous d'accord que Saddam Hussein, c'est un monstre, mais ils ne sont pas d'accord pour entrer en guerre contre Saddam Hussein. Il dit « Ça, c'est du relativisme. C'est tout et n'importe quoi. Il faut choisir. Et nous, on va choisir. On va peut-être perdre du monde. » C'est ce qu'il dit. « On va peut-être perdre une certaine frange des conservateurs. Puis au début, on va faire peur. Mais lentement, mais sûrement, nous allons réussir à imposer notre vision des choses. » Et ça, c'est un discours explicite. Ce n'est pas simplement... On peut bien sûr voir... Je suis convaincu qu'il y a certains, par exemple, membres des libéraux qui ont des visions assez proches. Par exemple, Ignatieff lui-même a des visions parfois assez proches de ce que disent les conservateurs, notamment en matière de politique internationale. Mais ce n'est pas réclamé comme tel, et surtout ce n'est pas intégré dans un discours qui, lui, m'apparaît extrêmement cohérent et organisé.
Justement, un de ces arguments forts dans le livre, c'est de caractériser la politique conservatrice comme une politique moralisatrice, et qu'ils ont la force de la morale, ils mobilisent autour de la morale contre une ancienne politique qui était une politique de distribution, d'équilibre, de négociation, etc. Et il y a un endroit dans le livre, un des seuls endroits où tu te permets une référence philosophique, notamment sur la page 99, où tu renvoies à Rawls et tu fais cette distinction entre une politique qui est assise sur une conception du bien versus une politique qui s'assoit sur une conception du juste. Et là-dedans, il y a tout le problème de ce que j'appellerais le désarmement unilatéral du libéralisme ou de cette incapacité d'un discours libéral, dans le sens philosophique du terme, de tenir la tête contre ce discours moralisateur des conservateurs. C'est justement que qu'est-ce qu'il y a dans cette conception du juste? Ce sont des notions d'équité et de neutralité. C'est une sorte de projet politique déontologique qui peut bien plaire à des intellectuels qui veulent s'imaginer dans la position originelle ou je ne sais pas quoi, mais ou dans quelle position, mais tu gagnes pas d'élection avec ce genre de discours-là. On pourrait dire que c'est tout aussi démobilisant que le cynisme affiché d'un Harper.
Peut-être, mais en tout cas, le jeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire, en tout cas, pour ma part, je serais prêt à me battre vraiment pour ces principes libéraux au sens large du terme, c'est-à-dire des principes de justice et d'équité, même si je rencontre une opposition qui, elle, prétend être, par exemple, plus en maîtrise de ses pouvoirs parce qu'elle fonde son discours sur des conceptions du bien, Par exemple, des conceptions de qu'est-ce qu'avoir une vie bonne, qu'est-ce qu'être un humain digne de ce nom, etc., etc. Et du coup, ça donne l'impression de quelque chose de plus incarné, alors que le type de discours que je vais, auquel je renvoie, donne l'impression de quelque chose de plus formel, de plus abstrait. Pourtant, il suffit de très peu d'efforts pour se rendre compte qu'il n'y a pas vraiment, c'est pas vrai qu'il y ait un discours qui est plus formel que l'autre. Je pourrais très bien, utiliser John Rawls. Pour ceux qui ne le savent pas, John Rawls est probablement le saint Thomas d'Aquin de la philosophie politique contemporaine, au point où les étudiants ne peuvent plus en entendre parler. Mais c'est quand même un de nos auteurs vraiment de base dans notre travail. Et un jour, on demandait à John Rawls, qu'est-ce que l'équité ? Et Rawls dit, imaginez que vous êtes dans un carré de sable, vous jouez avec des camions dans un carré de sable, puis là, il y a un enfant qui décide de vous voler un camion. C'est comme ça, sans raison. Alors, vous dites, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est, comme enfant, c'est « Hey, c'est pas juste. Il n'y a aucune raison que tu me l'enlèves. » D'accord ? Bien sûr, l'autre enfant peut dire « Bah non, c'est juste parce que c'est la loi du plus fort. » Ou « C'est bien parce que, de toute façon, moi j'aime les camions rouges et toi tu n'aimes pas les camions rouges. » D'accord ? Mais à la base, en fait, c'est simplement qu'il y a un principe qui dit « Ben voilà, il y a tant de camions, puis on se les distribue et puis on essaie de rendre les choses équitables. » D'accord ? Donc ça suppose que, par exemple, même lorsque nous ne sommes pas d'accord sur un certain point, on s'entend sur une procédure qui fait en sorte qu'on peut arriver à fonctionner. Par exemple, je ne sais pas, dans notre travail, comme une universitaire, il y a des moments où on n'est pas d'accord avec la nomination de telle ou telle personne. Mais si la procédure est respectée, alors on considère qu'elle est équitable, à condition évidemment que la procédure soit équitable.
Je ne sais pas à quoi tu fais
allusion. Non, j'ai même pas pensé à ce que j'étais en train de dire. L'art de se mettre les pieds dans le plat.
Vas-y. Ceci dit, je vais venir avec une contre-hypothèse forte.
Vas-y.
À l'effet que le discours libéral que tu célèbres, ce discours que tu fais remonter à Locke et non pas à Hobbes, parce que tu caractérises Harper comme un Hobbesien, alors que toi, tu veux le défenseur d'une position de Locke. Bon, on peut se disputer là-dessus, mais c'est peut-être pas l'occasion ici. Mais n'est-ce pas aujourd'hui l'épuisement, tout simplement, de ce discours-là? N'y a-t-il pas déjà toujours, au sein de ces discours-là, une sorte de repli sur la position hobbesienne, sur cette violence fondatrice?
Je sais pas. Moi, avec certains étudiants, j'essaie de réfléchir sur qu'est-ce que la contestation politique. Et essentiellement, on essaie de s'intéresser, par exemple, même à des modes de contestation de type action directe. À chaque fois, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure est-ce que je peux trouver que ce type d'action est légitime? Qu'est-ce qui va faire en sorte que, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui pose une bannière de force pour Greenpeace, d'accord, lui, je vais avoir plus de sympathie pour lui que quelqu'un, par exemple, qui le ferait pour une bannière d'un mouvement néo-nazi. Alors vous me direz, c'est évident, c'est le contenu. Oui, d'accord, mais le geste est sensiblement le même, d'accord? Donc, il faut bien que j'en revienne non pas à quelque chose qui est la force, mais le principe. Alors parfois, il peut se faire que des actions de force, par exemple, je ne sais pas moi, mettre des bannières, ou par exemple prendre la rue, ou des démonstrations de démocratie directe, soient nécessaires, d'accord ? Et puis dans certains contextes, autres que le nôtre, par exemple, je ne sais pas moi, dans des pays où l'autoritarisme est beaucoup plus fort qu'ici, là, ça me semble une option nécessaire. Mais en dernière instance, il n'en demeure pas moins que je serais très, 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 très malheureux, quelle que soit l'option qui l'emporterait, si celle-ci l'emportait par la force. Parce que ce qui l'emporte par la force peut aussi disparaître par la force. Donc moi, ce que je veux, essentiellement, c'est que derrière la force, il y a quelque chose comme un pouvoir, c'est-à-dire une légitimité. Par exemple, dans une discussion, il peut y avoir des échanges qui, parfois, seront en confrontation. Deux points de vue qui sont véritablement en confrontation. En revanche, ce qu'il nous faut, c'est des garde-fous pour éviter que, à la fin de cette discussion, on est opté pour l'une ou l'autre des options uniquement parce qu'il y a un rapport de force. D'accord ? Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est facile à éviter, bien au contraire. Je pense qu'en ce moment, ce qui se produit, c'est que l'observateur moyen de la chose publique ou de la scène politique est davantage impressionné par des rapports de force que par des rapports de principe, ce qui fait en sorte qu'il néglige les vrais problèmes. Et il se laisse très facilement émerveiller par la toquade ou le mot d'esprit de telle ou telle personne à tel ou tel moment. C'est ce qui fait, par exemple, que les gens vont regarder des débats télévisés ou des débats des chefs qui sont absolument sans aucun intérêt. Et les commentateurs, par exemple, vont en parler comme s'il s'agissait d'un simple match sportif. Alors que ça, pour moi, c'est une insulte à la démocratie.
J'aurais plein d'autres questions, mais je pense que c'est peut-être le moment est venu pour inviter le public. Je pourrais toujours remplir les trous si jamais il y en a, mais je ne pense pas qu'il y en aura. C'est moi qui va attribuer la parole pour que Christian n'ait pas à se battre avec vous de main en main directement. Et je vous rappelle que si vous avez une question, s'il vous plaît, vous présentez. Il y a un seul micro. Il y a ce seul micro ici. Donc, que vous soyez à gauche ou à droite, vous pouvez vous rapprocher du micro du centre.
Ça devient intimidant. C'est ce qui va faire en sorte que personne ne se présentera.
En attendant que les gens se mettent en file, je lance. je vais peut-être lancer une dernière question ou une petite provocation. L'autre jour, il y avait un sondage qui m'annonçait qu'il y avait 40% des hommes canadiens qui étaient prêts à voter pour Harper, alors que c'est seulement, heureusement, 30% des femmes. Mais chose incroyable, on se réconforte ici toujours au Québec en disant ça, c'est un problème du Canada. Or, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, on annonçait l'existence ou la possibilité d'un nouveau parti. Qui s'affiche directement, qui a eu une réunion cette fin de semaine où le Manning Center s'est présenté, où tous les médias, toutes les têtes pensantes de la droite canadienne se sont présentées à Québec. Et les sondages qui annonçaient l'existence de ce potentiel de ce parti annonçaient 40% d'appui tout de suite au Québec. Qu'est-ce qu'un philosophe fait face à cette triste réalité-là?
Ben là, c'est déjà un autre projet de livre. je pense qu'essentiellement, là... Bon, d'une part, pour le moment, en tout cas, pour le moment, j'analyserai ce mouvement, cette apparition d'un nouveau mouvement de droite, dans la mesure où on peut dire qu'il s'agit d'un nouveau mouvement, comme quelque chose de trop récent pour pouvoir poser quelques diagnostics que ce soit. En revanche, moi, ça ne me surprend guère. J'ai toujours été... sceptique par rapport à ceux qui voyaient au Québec une espèce d'asile de la gauche par rapport au reste du Canada. C'est peut-être vrai dans certaines régions du Québec, mais moi je viens de la Beauce par exemple, et je peux vous assurer que j'ai jamais eu le sentiment que les idées de gauche étaient particulièrement bien vues dans la patrie de Maxime Bernier. Voilà, donc c'est un premier problème. Ensuite, il me semble que, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je pense que le travail, c'est de toujours faire un appel à la vigilance. Alors, ça peut paraître une platitude, mais malheureusement, je pense que ce type d'appel n'a pas lieu suffisamment souvent. C'est comme si on disait à la vigilance. Tant mieux s'il y avait l'intelligence aussi. Là, l'un n'exclut pas l'autre. Mais voilà, donc ça peut paraître une platitude, mais malheureusement, ce que je sens de plus en plus, c'est ça, moi, c'est un projet que j'aurais, en tout cas particulièrement pour le Québec. Il me semble qu'au Québec, graduellement, tout ce qui permettait le débat public s'est peu à peu détérioré. Il reste encore quelques îlots, d'accord, mais ce qui permet des soirées comme ce soir, par exemple, là je m'excuse d'envoyer des fleurs à Olivieri, là, mais il n'y a plus beaucoup de librairies qui prennent, disons, du plancher comme ça, alors que ça rapporte pas beaucoup. Sincèrement, là, ça rapporte pas beaucoup. Là. Il y a une certaine visibilité, mais c'est vraiment un choix qu'ils font. Et ça, c'est devenu excessivement rare, parce que, justement, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. De la même façon, par exemple, les journaux. Les journaux ne parlent plus de livres, ou très peu, encore moins d'essais. Ça peut sembler éloigné de ce que tu me disais, mais moi, je pense que ceci explique cela. C'est-à-dire que moins il y a de place pour les débats intellectuels, plus nous sommes sensibles et vulnérables face à la démagogie.
Bon, maintenant, on a le débat intellectuel se présente devant nous. Je vous rappelle de parler directement dans le micro pour qu'on vous entende et aussi pour que ce soit enregistré pour la postérité et pour Radio Spirale. Je vous demanderai d'essayer d'être assez bref.
Question qui remonte au libre-échange. Un autre parti conservateur, progressiste, paraît-il, mais depuis que le libre-échange donc a été institué, il y avait une logique de faire en sorte que des deux côtés de la frontière, on en arrive à un état d'équilibre. Donc les Américains ont tenté de mousser ou d'améliorer leur système de santé chez les Clinton et puis Obama dernièrement. Bon, ils sont pas très réussis là, mais et nous en même temps, on baissait le nôtre, hein, pour obtenir une sorte d'équilibre. Hein. La même chose avec les arts, sauf que là, c'est plutôt nous qui avons baissé notre façon, notre soutien, finalement, aux arts. Donc, la question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous voyez Harper poursuivant une telle logique, peut-être d'instinct, ou bien peut-être même consciemment? Est-ce qu'il serait conscient de ce besoin, entre guillemets, je ne suis pas sûr que c'est nécessaire, évidemment, d'établir un équilibre, que ce soit en santé, que ce soit du côté de la culture et des arts, ou bien d'éducation ou toute autre chose. Donc voilà, est-ce qu'il était conscient, est-ce qu'il est conscient de ça, ou c'est un instinct?
Écoutez, là-dessus, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas politologue, donc je ne prétends pas avoir d'expertise pour vous répondre de manière satisfaisante. Mon intuition serait que ce dont vous parlez est plutôt une contrainte pour Harper qu'un incitatif. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils iraient beaucoup plus loin, en fait. Et que cette volonté d'avoir un système qui s'équilibre par rapport à celui des États-Unis fait en sorte que, par exemple, depuis l'arrivée de l'administration Obama, alors il y a certaines choses qui leur apparaît moins facile à faire. D'accord ? Mais ça ne les empêche pas de les faire. Moi, je pense essentiellement que, pour revenir au point de départ, non pas sur la question du libre-échange, mais sur les rapports entre les États-Unis et le Canada, il me semble très 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 clair que la droite conservatrice actuelle s'inspire très largement du mouvement des néo-conservateurs aux États-Unis. C'est quelque chose qui est assez semblable, mais dans un contexte propre à l'histoire canadienne. Donc il ne faut pas non plus confondre les registres. Toute la question ensuite, c'est de savoir à partir de quel moment est-ce qu'ils sont autonomes, c'est-à-dire par rapport à ce type de discours. D'accord ? Alors il semble que maintenant, le mouvement soit suffisamment formé, le mouvement conservateur actuel soit suffisamment clair, homogène, pour qu'ils puissent se séparer de ce qui les a inspirés au départ. D'ailleurs, ils commencent à se séparer des intellectuels qui étaient, par exemple, l'école de Calgary, des gens comme Tom Flanagan, tout ça, ils ont commencé à prendre leur distance par rapport à eux. Parce qu'essentiellement, ils ont réussi à se construire un discours homogène qui n'est plus dépendant de ce qui l'a inspiré au départ. Donc, désolé de ne pas vous répondre de manière satisfaisante, mais c'est comme ça que j'expliquerai les choses. Merci.
Il faut se mettre dans la file devant le micro, s'il vous plaît.
Bon, ma question va peut-être paraître naïve à premier abord, mais c'est une question qui concerne justement l'aspect cohérentiste du gouvernement conservateur. Mais en fait, c'est peut-être, à mon sens, une certaine cohérence, mais basée sur une sorte de contradiction fondamentale. Je m'explique, au fait, comment se fait-il que le conservateur peut être aussi conservateur sur certains plans politiques, notamment, j'ai en tête la question d'avortement, de mariage homosexuel, par exemple, mais aussi libéraux, si je peux dire, d'un point de vue économique, c'est-à-dire, là, on prône un libéralisme. Alors, d'une part, on a beaucoup d'interventions étatiques, ou beaucoup de volonté d'intervention étatique, et d'autre part, là, l'État n'a pu intervenir. Alors, est-ce cela une cohérence, une contradiction ou du relativisme, comme on
dit? Moi, merci. La façon dont je l'ai vu quand j'ai travaillé sur le livre, ils sont très conscients de ça. Déjà, dans la conférence de Kiwitas dont je parlais, c'est exactement Harper présente les deux mouvements du conservatisme auxquels vous faites allusion. Ce qu'il dit, c'est, en revanche, qu'il y en a un pour lequel il n'y a plus de combat à faire. Donc pour lui, en fait, il n'y a pas de contradiction, puisque de toute façon, le combat est déjà gagné. Donc c'est une drôle de façon de répondre, parce que la contradiction logique, elle demeure. D'accord ? Mais eux n'y verraient pas une contradiction dans la mesure où, je crois, ils sont en train de créer une nouvelle forme de ce qu'on appelle le libertarisme, ou si vous voulez, par libertarisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il doit y avoir le moins d'intervention possible de l'État. En fait, par le moins d'intervention possible de l'État, pour eux, ce que ça signifie, c'est le moins de citoyenneté possible. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait que l'État ne soit plus présent, c'est le fait que les institutions qui nous permettent d'avoir un contrôle sur les gardiens, c'est-à-dire un contrôle sur le pouvoir exécutif, sont de moins en moins fortes. De telle sorte que, et le discours est toujours le même, c'est de toute façon, la population canadienne veut avoir la paix. Ce qu'ils veulent, c'est que nous soyons le moins présents possible. Mais en fait, ce que ça signifie, c'est ce qu'ils veulent, c'est ne pas avoir à intervenir, puis confier tout le travail à des spécialistes. Ce qui est quand même cohérent. En gros, ce que ça signifie, c'est de dire les gens ne veulent pas s'investir dans la vie politique. Et ça devrait être une bonne façon de présenter le libertarisme. D'accord ? En revanche, ce que ça montre, en fait, c'est qu'à partir sur certaines prérogatives du pouvoir exécutif, moins il y a la possibilité pour des individus de s'investir dans la vie publique, moins les institutions sont là pour recevoir leur travail de contestation, par exemple, alors la contestation devient vaine. Ça devient un coup d'épée dans l'eau. Un peu comme mon livre. C'est vrai, mon livre, c'est, je dirais pas, je suis bien content, j'espère que ça va être plus qu'un coup d'épée dans l'eau, mais je n'ai pas... Sur le plan institutionnel, je n'ai pas de caisse de résonance. Pour le moment, en tout cas, je ne vois pas de caisse de résonance qui permettrait de faire en sorte que un livre comme celui-ci puisse véritablement porter. C'est pour eux, c'est... Bon, il y a un moustique qui les embête, là, puis encore, s'ils entendent parler du moustique, ce sera déjà pas si mal. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il me semble que... en redéfinissant ce que c'est que le conservatisme, ils évitent dans leur esprit, cette contradiction.
La force des moustiques est dans l'ombre, évidemment. Alors, j'espère bien que votre livre sera plus qu'un coup d'épée dans l'eau. Je suis un peu un externe. Moi, je ne suis pas étudiant en Sciences Po. Je suis un observateur de la scène politique. Ma question est plus au niveau théorique. Vous êtes-vous intéressé aux travaux de M. George Lakoff, ou Lakoff, qui est un professeur américain de l'Ouest? Et c'est pas non plus un philosophe ou quoi que ce soit, c'est un cogniticien. Il s'est fait connaître durant les années Clinton par la métaphore qu'il a développée, où il explique que pour le conservateur, l'espace politique est une projection de l'espace familial sous le modèle de la famille autoritaire. Alors ça explique la hiérarchisation, ça explique le fait que, écoute, marche ou crève, ça explique un paquet de comportements qui sont par ailleurs peut-être un peu difficiles à expliquer. Comment on peut expliquer, par exemple, que c'est les mêmes personnes qui sont contre l'avortement et qui sont pour le port des armes, qui sont pour la guerre et qui sont dans l'approche punitive? Et bon, il y a tout un amalgame de positions qui semblent hétéroclites, mais qui ont peut-être un filon commun. Et il exprime aussi la polarité inverse, c'est-à-dire que le libéralisme, le pluralisme, serait l'inspiration, ce serait la projection, quoi, d'une famille, de la famille nourricière dans l'espace politique. Dans une famille nourricière, on s'occupe de nos enfants, on en prend soin. Il y a de l'assurance chômage, il y a des soins de santé. Alors, il y a une espèce de cohérence dans cette projection-là. Finalement, c'est un spécialiste des métaphores et il a fait du millage là-dessus. Et je me demande si ça ne serait pas un peu fertile comme raisonnement.
Je vous remercie. Non, je ne connaissais pas. J'en prends bonne note. La seule chose que je pourrais ajouter là-dessus, c'est je reste convaincu malgré tout qu'il y a encore beaucoup de conservateurs qui ne se reconnaissent pas dans la manière dont vous présentez le conservatisme.
Le conservatisme radical.
Oui, bien sûr. Non, mais moi-même, dans le livre, je dis attention, je ne parle pas de tous les conservatismes. Je parle de ce conservatisme tel que représenté par Harper et ses amis. Mais justement, l'idée, c'est d'essayer de voir est-ce que, par exemple, ceux qui se sont associés, par exemple, les anciens du Parti progressiste conservateur, est-ce que ces individus sont prêts à accepter ce pacte avec, donc, un mouvement conservateur auxquelles, au départ, il n'adhérait pas. Et jusqu'à combien de temps, pour combien de temps encore, est-ce que cette association va tenir? Pour le moment, elle tient beaucoup en raison de ses succès. Et elle tient aussi beaucoup parce que, de l'autre côté des choses, il n'y a pas la même volonté d'unification ou d'un travail d'une certaine cohérence, ne serait-ce que même à l'intérieur même des partis. Comme si, en fait, il fallait penser la politique à la pièce. Et je pense qu'en ce moment, ce qui fait le succès, c'est de penser les choses de manière cohérente et systématique. Est-ce motivé par une conception hiérarchique telle que vous la présentez? Je serais prêt à le croire dans une certaine mesure seulement. Par exemple, je n'ai pas encore lu le fameux livre Harper Land, mais on insiste beaucoup, beaucoup sur la personne de Harper. Et puis, il me semble que ce qui me gêne d'une telle approche, c'est en gros comme si on faisait reposer ce qui se produit sur une série de contingences, par exemple sur le caractère particulier d'une personne. Et ça me gêne parce que ça signifie en gros que finalement, c'est un accident. Alors que je ne crois pas que ce qui se produit en ce moment est simplement un accident. En gros, on a malheureusement, toute société a les gouvernants qu'elle mérite.
Monsieur. Je suis Syria Kendon-Meza, et candidat au doctorat de philosophie à l'Université de Montréal. Donc, le professeur Christian Nadeau est mon professeur. Nous avons fait des séminaires de doctorat ensemble. Donc, c'est par le site du Crayon que j'ai eu l'annonce du livre. Et ce qui m'a frappé, le choc, c'est contre Harper. Et je me suis dit, mais c'est terrible, ça va barder. C'est vrai que le sous-titre vient davantage éclairer ce titre de choc. Mais d'emblée, ce titre qui annonce un peu comme une espèce d'argument ad hominem. Vous avez commencé déjà peut-être à répondre à ma question tout à l'heure en disant qu'on parle plus de la personne de Harper, mais est-ce que c'est une étape théorique qui prépare un saut dans l'arène concrète du monde de la politique? Est-ce que, je suppose que Michael Niasiev ou bien John Layton, l'opposition va se saisir de ce livre. Je ne pense pas qu'il va y avoir un coup d'épée dans l'eau, je ne pense pas qu'il va y avoir un petit moustique qui crie, mais est-ce que c'est une question un peu belle? Est-ce que,
Non, bah, c'est,
bah, ça ne me dérangerait pas que vous soyez député libéral ou...
Non, je n'ai absolument pas ces ambitions. Essentiellement, pour moi, Harper, c'est un concept. Donc, ça peut paraître bizarre, là, mais c'est pour ça que mon collègue est découragé, parce qu'il se dit « Ouais, ben voilà, c'est, voilà pourquoi tu échoues. » Mais, bon, j'ai l'habitude des remarques des politologues sur les gens en philo-politique. C'est une vieille histoire, ça. C'est... Et, en gros, comment dire les choses? C'est... Pour moi, c'est un concept, ce qui signifie que ce n'est pas sa personne qui m'intéresse, et je ne prétends même pas savoir ce qu'il y a dans sa tête. Moi, je me fonde uniquement sur ce qui est de l'ordre du déclaré, de ce qui est de l'ordre du réclamé comme tel. D'accord? Donc, par exemple, les discours, les différentes politiques qui ont été prises. Il n'y a rien dans le livre, en tout cas, je l'espère, qui laisse entendre quelque chose comme, par exemple, une forme de complot conservateur. Au contraire, les conservateurs, dont on accuse pourtant de manquer de transparence, sur leurs motivations, sont on ne peut plus explicites. Ils sont très transparents. Donc, moi, je travaille avec ça. Et à partir de là, j'analyse les actions et le propos, et j'essaie de voir dans quelle mesure est-ce que nous devrions être offusqués, choqués, et dans quelle mesure nous devrions agir en réponse à ce type d'action. Mais je ne prétends pas, je n'encourage pas une action politique en particulier. Autrement dit, le livre, là-dessus, il reste relativement neutre. J'encourage à l'action, mais pour moi, essentiellement, l'action commence par la simple information et la simple compréhension du problème auquel nous faisons face. Et ça, c'est le début de... Pour moi, c'est le début de la guérison. C'est quand on commence, c'est quand on sait qu'on est malade, que, ben, on va voir le docteur. Je ne vous dis pas le philosophe, là, mais... Par exemple.
Merci. Vous pourriez demander au journaliste qui lui envoie un livre par semaine de lui envoyer votre livre.
Yann Martel, oui. J'avoue que l'idée m'est passée par l'esprit, mais je me suis dit, non, là, ça fait vraiment trop... Si on entend parler, tant mieux, là, mais on verra. Ça me gênerait de lui envoyer moi-même mon livre. Mais si vous voulez le faire, allez-y.
Je vais le traduire en anglais avant.
D'accord.
Écoutez, la démocratie, c'est un concept. Je ne pense pas qu'il existe une seule sorte de démocratie. Les sociétés organisent en quelque sorte leur propre démocratie. Actuellement, Harper, je pense que c'est une anomalie de la démocratie parce qu'au point de vue de la légitimité, vous donnez beaucoup de sens à la légitimité du processus et si le processus est respecté, c'est OK. Malheureusement, le processus a été respecté, mais il n'y en a pas moins qui est là au pouvoir avec 32-33% des votes, ce qui est illégitime pour moi dans une vraie démocratie parce qu'en fait, c'est la minorité qui mène la majorité. Et contrairement à d'autres systèmes où il y a des coalitions entre des gens élus, lui finalement a réussi à rester au pouvoir à cause de la désunion des 66% qui restent. Alors, et c'était notre système politique qui n'était pas bon plutôt. Là. Mm-hmm.
Ça, je suis très sensible à ce genre d'argument. Mais pour moi, si dans le cadre de ce livre-là, je m'avançais sur ce terrain-là, ça devenait... À mon sens, ça devenait un autre problème. Je peux le suggérer, mais là, j'essaie de voir qu'est-ce qui est problématique dans l'état actuel des choses et qu'est-ce que nous pouvons peut-être faire, ou encore ce vers quoi nous devrions nous diriger dans l'état actuel des choses. Bien sûr, on pourrait supposer qu'il doit y avoir des réformes au niveau de notre mode de fonctionnement démocratique. Ça, moi, je suis assez favorable à ce genre de choses. Mais je pense que en ce moment, ce qui se produit, je pense que le problème est plus grave encore que sur le plan de la démocratie représentative. Alors, je pense que, en dehors des mécanismes de représentation, ce qui se produit en ce moment, c'est qu'il y a une espèce de désaveu par rapport à tout le reste, que moi j'appelle aussi la démocratie. Par exemple, les débats publics. Par exemple, des discussions dans les médias. Par exemple, le fait que des gens peuvent se servir de la démagogie sans absolument aucune vergogne, et puis on tolère. On ne le dénonce pas comme tel. Donc il y a énormément d'aspects de moi ce que je considère être la démocratie qui sont en ce moment très fragiles, très en mauvais état. Et la démocratie représentative, c'est un problème, mais ce n'est pas l'ensemble du problème. Mais ceci dit, je suis d'accord avec vous qu'il y a très certainement un problème structurel aussi, qui est de l'ordre des mécanismes de notre démocratie représentative.
Madame.
Bonsoir. J'aimerais vous entendre sur la question de l'immigration. En fait, hormis ma question dans deux parties, donc hormis l'idéologie sécuritaire que vous évoquez d'ailleurs dans votre livre, est-ce que l'équipe de Harper, et M. Harper particulièrement, se base sur d'autres principes pour amener notamment les différentes... la réforme du refuge qui a eu lieu il n'y a pas trop longtemps? Et donc, dans un deuxième temps, comment vous expliquez que cette réforme-là, qui était pourtant contestée, on parle d'un droit fondamental, celui du droit d'asile, a atteint assez rapidement un consensus au sein de tous les partis politiques?
Mm-hmm. Oui, ben, pour moi, ça, c'est un symptôme, justement, que quelque chose ne tourne pas rond au Royaume 2. L'exemple que j'ai en tête, c'est la dernière crise des réfugiés tamouls. Alors, moi, j'ai écrit à ce sujet, et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans le discours ambiant, il y a eu deux réactions, en gros. Une première réaction qui est une forme d'indifférence mêlée à un peu d'agacement, d'accord, du genre, pourquoi est-ce qu'on aurait une obligation à l'égard de gens qui, de toute façon, s'installent ici pour retourner au Sri Lanka, prendre des vacances? Donc, ce qui prouve, en fait, que ce ne sont pas des vrais réfugiés, etc. Bon, tout ce genre de discours qu'on a pu entendre. Et de l'autre côté, quelques réactions, mais très peu, de gens qui disaient « Mais là, il y a quelque chose d'extrêmement grave et qui illustre la manière dont le gouvernement veut se comporter. » En fait, la manière dont on a géré la dernière crise des réfugiés tamouls, pour moi, est représentative d'un message que l'on veut envoyer. Donc, on se fiche éperdument, en fait, des réfugiés et des immigrants. C'est ce qu'on veut, c'est un poster. Ce qu'on veut, c'est dire, ben voilà, ici, là, maintenant, ce n'est plus un État qui prétend je ne dis pas qu'il le faisait auparavant, mais qui même prétend avoir une tradition d'accueil par rapport à des individus qui sont dans une situation extrême, comme par exemple ces réfugiés du Sri Lanka. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'excessivement grave. Là, je dois avouer qu'il y a quelque chose qui me fascine. Pour moi, un autre symptôme de notre maladie sociale, c'est à quel point les questions internationales nous passent par-dessus la tête. Il y en a de moins en moins d'espace dans les médias pour les questions internationales. Donc comment voulez-vous que des gens se mobilisent pour dire, ben, écoutez, il faudrait peut-être voir qu'est-ce que ça signifie être un réfugié du Sri Lanka ? Est-ce que vous avez compris quel est le sens de ce conflit ? Est-ce que vous savez quelle est la condition des réfugiés tamouls en ce moment ? Est-ce que vous connaissez la condition du peuple tamoul au Sri Lanka ? C'est quelque chose d'extrêmement grave qui se passe. Et comme on ignore tout de la situation, alors on est tout à fait prêt à recevoir des discours comme ceux qui disent « Ah, les réfugiés tamouls, en fait, c'est pas des vrais réfugiés, la preuve, ils prennent des vacances. » D'accord ? Non, mais j'essayais de répondre à votre question. Mais non, évidemment qu'on n'est pas d'accord.
Bonsoir.
Bonsoir.
Une des choses que je comprends pas très bien chez Harper, c'est une espèce de décalage entre la politique familiale, disons, la politique conservateur, et leur position sur les dépenses publiques, l'économie. Ils sont extrêmement conservateurs pour tout ce qui touche aux questions immédiates, mais où est le conservatisme chez le département des finances, où leur approche économique est complètement impossible à comprendre pour moi.
Ben, je pense que moi, ce que je vous inviterais à faire, ce que j'ai essayé de faire, puis je dois avouer que j'en ai perdu le reste de mes cheveux, mais bon, de toute façon, il n'y en avait plus, mais c'est d'aller voir les budgets. Allez sur le site du gouvernement, puis allez lire à la fois les résumés, mais prenez la peine de parcourir les documents de parfois 400, 500 pages, les différents budgets. C'est un exercice extrêmement intéressant, parce que ce que vous voyez, en fait, c'est que c'est un gouvernement qui dépense beaucoup, mais qui choisit où dépenser, notamment, par exemple, dans les dépenses militaires. Et ça, pour répondre à la question tout à l'heure au sujet des échanges avec les États-Unis, ça, pour moi, c'est un exemple très, très, très clair. Et très clair qu'en fait, ce qu'on a voulu, c'est changer le caractère de notre armée, d'accord ? Et on a voulu en faire une armée moderne par tous les moyens possibles. Alors, évidemment, ça nous a coûté cher en Afghanistan, parce que notre armée, ça coûte cher en Afghanistan, et puis on a une armée qui va revenir en mauvais état. Au niveau de morale des troupes, au niveau de l'ensemble des effectifs, il y a de très sérieux problèmes. Mais on va continuer à injecter de l'argent, parce que ce qu'on veut, c'est encore une fois, un peu comme par exemple on le disait au sujet de l'immigration, c'est envoyer un message très clair. Et on est prêt à payer très cher pour cela. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu des dépenses extraordinaires au sein de ce gouvernement, mais encore une fois, à partir du moment où on dit aux gens, ben, dans le fond, ça ne vous intéresse pas. Parce que vous êtes pour qu'il y ait le moins d'État possible, donc laissez-nous faire. Ça peut paraître bizarre, là, contradictoire, mais en gros, ce que ça signifie, c'est si l'État, c'est la citoyenneté, ben, on veut qu'il y ait le moins de citoyenneté possible. Restez chez vous, restez tranquille, on s'en occupe. Il y a une affiche que moi j'ai mise sur la porte de mon bureau, et que j'aime beaucoup. Il y a un groupe de protestation contre Harper. En gros, c'est, tu vois Harper dans une position de Uncle Sam, et il dit « I want you not to care ». Et ça me semble assez symptomatique, disons.
Bonsoir, Michael Murphy, doctorant en philosophie politique.
Et c'est pas le mien, celui-là. Là.
C'est pas le sien, oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ça rejoint le dernier point que tu fais et sur lequel je suis véritablement d'accord. C'est-à-dire la caractérisation que tu fais de ces conservateurs comme étant favorables à un État hobbesien fort. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je suis beaucoup plus... j'ai des points d'interrogation, disons, pour, par exemple, s'ils ont vraiment les moyens et s'ils veulent vraiment appliquer une politique conservatrice, par exemple concernant les mœurs. Ils choisissent les endroits où, justement, faire leurs actions. Les Tamouls, ça n'intéresse personne. Il y a un revirement à 380 degrés de 360, pardon, degrés de la politique, par exemple, canadienne par rapport au conflit israélo-palestinien, à un moment où les Américains eux-mêmes commencent à être un petit peu plus prudents. Et le Canada servir de bord. C'est pas une question qui intéresse beaucoup les Canadiens. L'affaire Omar Khadr aussi, la façon dont toutes ces questions ont été gérées, encore une fois, ça n'intéresse pas. Donc, ils choisissent les endroits. Mais j'imagine mal que, par exemple, un renversement de la loi sur l'avortement qu'ils puissent imaginer, par exemple, aller là. Ou commencer à faire des choses sur le plan des mœurs. Ce que j'appelle les mœurs, sur le droit des femmes, etc. Parce que de ce côté-là, peut-être aussi, c'est que nous avons des institutions très fortes qui protègent, parce que ça se passe pas au niveau, plus tellement au niveau citoyen, finalement, c'est la Cour suprême, etc. Mais effectivement, là où j'ai beaucoup de craintes, et ça je les partage vraiment, c'est pour ces questions-là, qu'est-ce qui reste comme action aux citoyens, etc. Et dans ce contexte, par exemple, je voudrais savoir ton opinion et ta position sur ce qui s'est passé au G20. Est-ce que tu considères que les manifestations étaient trop violentes? Est-ce que dans cette condition-là, par exemple, pour moi, il n'y a pas de mobilisation autour de ça. Peut-être que beaucoup de gens considèrent que c'est une bande de jeunes un peu surexcités pour des questions qui finalement, est-ce que ça nous intéresse vraiment? Donc voilà ce que je voulais dire.
Ok, rapidement, puisque bon, il commence à se faire tard, puis il y a d'autres questions. Je pense au contraire que là où ils sont les plus insidieux, c'est précisément sur ce sur quoi ils savent ne pas avoir d'effet immédiat. Par exemple, l'avortement, par exemple, la place des femmes dans la société, etc. C'est-à-dire, leur tactique alors devient très différente. Et je reprendrai l'exemple du registre des armes à feu. Le registre des armes à feu est, à mon sens, un très bon exemple de la manière de procéder. Il y a eu différentes moutures de différentes tentatives d'abolir le registre des armes à feu, ou en tout cas de l'abolir partiellement. Et là, nous savons que malgré le vote qu'il y a eu, Harper a dit « Ne vous inquiétez pas, je vais revenir à la charge. » D'accord ? Donc, en gros, leur façon de faire est d'y aller vraiment dans le cadre de ces dossiers très importants, c'est d'y aller petit à petit. De sorte que graduellement, on se bat pour des miettes. C'est-à-dire que graduellement, on a l'impression d'avoir une victoire alors qu'on n'a même pas gagné une bataille. Par exemple, le registre des armes à feu. On s'est félicité, on a dit « ouf ». Enfin, certains d'entre nous, en tout cas, on a dit « ouf ». Il n'en demeure pas moins que, en gros, le simple fait que, sans attendre, notre premier ministre dise « I'll be back », un peu à la manière de Terminator, laisse pantois. Ça a quelque chose de... Enfin, dans quel type de démocratie sommes-nous? Et je crois que leur manière de faire fonctionne très bien. C'est-à-dire, ce qu'ils font, c'est vraiment de gagner de petites batailles qui, graduellement, ressemblent à des grandes victoires. Donc moi, je pense qu'il faut être particulièrement vigilant pour ces dossiers. Maintenant, très rapidement pour le G20, la façon dont je vois ça, moi, c'est là aussi un exercice de contrôle sécuritaire complètement démesuré. Et là aussi, on a traité la chose de manière générale comme si tout va bien à Madame la Marquise, il ne s'est rien passé. Alors qu'on a eu droit à quand même des précédents dans l'histoire de cette ville de Toronto. C'est quelque chose qui est de l'ordre du jamais vu. Et c'est quelque chose qui marque politiquement aussi. Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est, par exemple, aux personnes qui veulent être tranquilles puis ne pas avoir ce genre de problème avec les manifestants, ce qu'on est en train de leur dire, c'est, voyez, il y a une seule façon de bien faire les choses. Et ça m'apparaît extrêmement dangereux.
Moi, je vais abuser de la présidence juste pour dire que je vais poser une question. Ça va donner la chance aux dernières personnes qui veulent se mettre dans la file. Il y a deux personnes en attente. S'il y en a d'autres, c'est le moment de vous mettre dans la file. Après, je vais couper le droit de parole des personnes en file parce qu'après, il y a quand même un vin d'honneur. Il ne faut pas oublier ça. Mais il y avait plusieurs questions qui tournaient autour de cette question du caractère de cette philosophie et surtout les incohérences, du moins d'un point de vue de notre compréhension de ce que c'est que le conservatisme. Aussi dans ton livre, à plusieurs endroits, tu parles d'un traditionnalisme. Or, moi, je me pose la question si ce n'est pas un avant-gardisme. Mm-hmm. Et notamment, juste l'exemple du recensement. Dans ton livre, tu l'as présenté un peu comme « Ah, c'est l'obscurantisme conservateur, il ne veut pas savoir ». Mais moi, j'avais l'impression avec le recensement qu'il s'agissait justement de détruire la population canadienne. Les Canadiens n'existent plus en tant que population. Il n'y a pas d'unité nationale. Il n'y a maintenant que des petits sous-groupes. Un des arguments des conservateurs plus intelligents, mais d'autant plus méchants, c'était de dire que nous, on a des connaissances très pointues, des mécanismes très, très spécialisés qui nous permettent de connaître différentes parties de la population. On peut se passer de connaître la population, on peut se passer d'avoir une vision d'ensemble, d'une société bien ordonnée. On a des, et là, on se retrouve dans une toute autre logique du politique dont on ne peut pas rendre compte dans les vieux débats, traditionnalisme, démocratie, etc.
Ben, je pense que malgré tout, même si je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que malgré tout, il y a une forme de traditionnalisme, mais c'est une autre tradition, c'est-à-dire c'est une tradition idéalisée. C'est comme si on disait, on doit revenir en arrière, mais revenir en arrière n'a absolument aucun sens, c'est plutôt aller vers l'avant. C'est comme si on disait, ben voilà, par exemple, quand on regarde les gens qui font partie du Tea Party aux États-Unis, ben c'est des gens qui se voient eux-mêmes comme traditionnalistes. Mais ils inventent une tradition, c'est-à-dire ils mettent de l'avant un projet et ils réclament une autorité historique à ce projet en disant, ben, on a toujours été comme ça, on a toujours eu une fourche puis une vache, puis bon, tiens. Et mais en fait, c'est une pure idéalisation, c'est une pure reconstruction. De la même façon, par exemple, que ceux qui vont lire la Constitution américaine et qui vont prétendre revenir aux origines et aux motivations de la Constitution américaine. D'accord ? Alors en fait, c'est une pure reconstruction, c'est une projection en avant d'un passé idéalisé. Là, ici, je crois qu'on a quelque chose de semblable. Je ne crois pas que le Parti conservateur actuel peut véritablement prétendre être dans une continuité historique. Je crois véritablement qu'il s'agit d'une démarcation très forte. D'où le sous-titre du livre. C'est une révolution. C'est une révolution conservatrice, mais c'est une révolution.
Monsieur. Bonjour. Ayant milité pour Greenpeace, puis faisant partie d'un de ceux qui travaillent notamment sur la question de la contestation en philopolitique, je suis toujours choqué de voir à quel point Harper n'est pas porté à tendre l'oreille puis à écouter la mobilisation citoyenne. Puis dans cette optique-là, c'est tout à fait légitime d'écrire un livre contre Harper, parce qu'on pourrait peut-être littéralement parler de domination quand un gouvernement ne veut pas écouter la mobilisation citoyenne elle-même. Mais vous avez dit une phrase tantôt qui m'a un peu choqué quand vous dites le peuple mérite un peu le gouvernement qu'on a. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu écrire un livre dans cette optique-là contre les Canadiens plutôt que d'écrire contre Harper? Donc, qu'est-ce qui relève vraiment de la cause puis qu'est-ce qui relève de l'effet? Est-ce que Harper est l'effet du manque de mobilisation ou si le manque de mobilisation est l'effet de la politique conservatrice? Mm-hmm.
Sans boutade, là, c'est un peu l'œuf et la poule. je sais pas. Moi, je me suis concentré sur, disons, ce que je vois à la fois comme une cause et un symptôme. D'accord? Donc, pour moi, Harper génère de la maladie, d'accord? Mais il est aussi un symptôme d'un système immunitaire déficient. Et ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est effectivement rendre ce système immunitaire digne de ce nom. Alors, ça suppose bon nombre de choses, dont, par exemple, des actions citoyennes comme celles auxquelles vous avez fait allusion. Maintenant, dans une optique plus générale, mais ça m'apparaîtrait un défi tout autre ampleur, oui, je pense qu'il y a un très sérieux problème au niveau de la culture politique des Canadiens. Bon, on pourrait me dire, est-ce que c'est pas un problème de culture politique de l'Occident, mais ça devient un petit peu trop difficile à démontrer. Mais je pense essentiellement que nous avons laissé, il y a de moins en moins d'instances qui permettent une diffusion de ce que je vois comme étant un moyen de renforcer notre système immunitaire. De sorte que, par exemple, des manifestations vont avoir lieu. Elles sont pourtant dans la rue, elles sont visibles, mais on est très bien capable de ne pas les entendre, de ne pas même remarquer qu'elles ont eu lieu. Parce que, par exemple, les médias n'en parleront même pas. Sinon, pour décrire un peu de grabuge.
Monsieur. Je vais y aller des réflexions en vrac, je n'ai rien préparé. Parlons-en de Toronto. 1 milliard pour la sécurité. Une maudite chance qu'il y a eu des agents provocateurs pour faire brûler 3 chars de police puis faire sauter 3 douzaines de vitrines. Il y a eu moins $1 million de dégâts puis ça a justifié 1 milliard en dépenses. Parlons-en de Toronto. 80 millions pour nourrir 3000 polices pendant 3 jours. Ça fait 26 000 repas. Ça fait 2692 $ par repas. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Pas besoin de la Gestapo. C'est le fascisme. Vous passez à côté, c'est le fascisme. Le mépris de la connaissance avec l'abolition des statistiques, le congédiement du gars de Statistique Canada, le congédiement du gars de la protection de la santé, c'est le mépris de la connaissance. Le mépris de la connaissance est une des caractéristiques fondamentales du fascisme. Harper, c'était un hostie de fascisme. C'est pire que des fascistes. C'est un criminel. Aujourd'hui, Omar Khadr, après 8 ans de waterboarding, après 8 ans de privation de sommeil, puis de spot d'en face, il a avoué qu'il était coupable. Quelle victoire pour la démocratie puis pour la justice américaine. Oui. Bravo. Puis Harper, il a pas levé le petit doigt. Quoi d'autre? Le CHUM, ça fait 200 millions et plus qu'on dépense, puis il n'y a pas encore un brin d'herbe qui a bougé. C'est économique. Tout ça, c'est économique. C'est favoriser, c'est le néolibéralisme, c'est les théories crapuleuses de Hayek et Friedman. C'est favoriser non pas la concentration du capital. Le capitalisme, par tout seul, le capital se concentre. C'est l'accélération de la concentration du capital. Là, on a dépensé déjà 200 millions avec Johnson, là, Pierre-Marc puis son petit frère, puis ben d'autres, pour des études, 200 millions. Puis je vous le dis, il n'y a pas un brin d'herbe encore qui a levé. Une des caractéristiques qu'on a, c'est le vieillissement de la population. Les gens ont peur. D'autant plus, comme je disais tout à l'heure, peut-être que je ne l'ai pas encore dit, ça, on n'a pas besoin de la Gestapo quand 40% des gens vivent de statut précaire puis peuvent se faire sacrer dehors sur un oui ou sur un non. Pas besoin de faire peur avec une police politique, quoi qu'il y en a déjà une. On va bâtir, on va acheter des avions pour 19 milliards sans appel d'offres. On bâtit des prisons parce qu'il y a une hausse considérable dans les unreported crimes. Ça, c'est comme la majorité silencieuse. La preuve qu'elle existe, c'est qu'elle n'existe pas. Oh, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Quand un gars comme un salaud du nom de Lloyd Blankfein, le président de Goldman Sachs, se donne un bonus de 168 millions de dollars, de deux choses l'une. Ou ben donc cet argent-là n'a aucune valeur. Et à ce moment-là, ça sert à rien de se donner un bonus. Ou bien cet argent-là vaut quelque chose. Ça veut dire que c'est de la cristallisation de la richesse. Mais il y a juste les néolibéraux puis le secteur financier qui, je vous le dis en passant, maintenant représente 40% du PIB américain, le brassage de papier dans les hautes sphères financières. Il y a juste eux autres pour penser que la brassée du papier ça crée de la richesse. Si cet argent-là représente quelque chose, ça représente de l'argent qui a été volé à ceux qui l'ont vraiment travaillé. Ceux qui font des chars, des godasses, qui bâtissent des maisons, c'est eux autres qui créent la richesse. C'est pas les brasseux de papier de Goldman Sachs. C'est tout ce que j'ai à dire.
Merci, monsieur. Je pense que c'était une bonne dernière...
On a besoin d'un espace pour le débat politique.
Oui, oui. Mais je voulais juste dire, avant de passer la parole à Christian, que certains de vos arguments sont à trouver dans le livre contre Harper, que vous pouvez vous procurer même ici à la librairie Olivieri et que les auditeurs sur Radio Spirale, et là je démontre la capacité de récupération du discours néolibéral, on change votre intervention maintenant en produit vendable et je fais partie du problème. Donc, mais je laisse... Christian,
juste un mot pour vous répondre. Je prends, peut-être que c'était pas votre intention, mais je prends ce que vous me dites comme une forme de critique amicale. Comme si vous me disiez, vous êtes pas suffisamment radical dans votre propos par rapport à ce que vous analysez ou quelque chose comme ça. Alors, ma manière de répondre à ça, c'est que j'essaie d'imaginer que, par exemple, quelqu'un qui vient d'une dictature comme, bon, j'ai donné l'exemple de la République dominicaine tout à l'heure, ou qui vient d'un pays d'Amérique latine, ou qui a vraiment connu la dictature dans ce cas de plus atroce. Et là, on lui dit, ici, c'est la dictature, je pense qu'il y aurait quelque chose qui passerait mal. Je pense qu'il y aurait quelque chose qui passerait mal, et moi, j'ai besoin de faire la part des choses. Je peux me tromper. Je peux peut-être ne pas voir que le problème est encore plus grave que ce que j'avais identifié au départ. Mais il n'en demeure pas moins que ce qui me gêne, c'est qu'il faut faire attention, disons, de simplement d'identifier avec les bons vocables. Maintenant, encore une fois, on peut ne pas être d'accord là-dessus, mais là, ça devient une question de vocabulaire.
on n'a pas encore eu d'incendie de Reichstag, c'est ça que vous voulez savoir. Un empêche pas l'autre. Je veux dire, on prépare, d'autant plus avec un matraquage médiatique, avec la presse à Power, les journaux à Desmarais qui publient régulièrement les sottises de Joseph Facal, par exemple, sans compter que PKP a financé le réseau Québec-Liberté ou Liberté-Québec en fin de semaine, où on a entendu les pires conneries, les mensonges, sophismes, menaces et conneries. C'est les quatre piliers du néolibéralisme.
Je pense...
Juste une dernière remarque, mais c'est tout. Il y a une autre chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui, ou enfin qu'on a simplement abordé, c'est la question au marcadeur. Là, il se passe évidemment quelque chose de très grave qui me semble symptomatique de... Pardonnez-moi d'employer l'expression symptomatique à plusieurs reprises, mais de ce qui se passe ici. C'est-à-dire, on dit Harper, le gouvernement Harper, etc., mais il faut quand même voir qu'en ce moment... La condition de Omar Khadr, nous en sommes responsables. Ce qui me déprime beaucoup au Canada, c'est notre façon de transporter notre responsabilité sur le fait « je n'ai pas voté pour ça ». D'accord ? Mais il n'y en a pas moins que ce sont vos impôts, c'est votre gouvernement, et donc il y a une responsabilité d'agir le plus possible sur celui-ci lorsqu'il commet des gestes comme, par exemple, cette situation au sujet d'Omar Khadr. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se permettent de dire « je suis contre eux, donc je ne suis pas responsable. » Et ça, pour moi, ça, c'est très, 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 très problématique. Si je suis véritablement contre une instance, mais que j'en suis responsable malgré tout, alors mon travail, c'est de m'impliquer. Voilà.
Je voudrais juste rajouter, on n'a pas eu d'incendie du Reichstag, mais on a eu la prorogation. Et c'est le... Il faudrait qu'on s'implique de la même manière que pour Omar Khadr, en faveur aussi de nos institutions parlementaires. Donc, sur ce, je remercie beaucoup Christian Nadeau, et j'ai oublié de le dire au tout début de la soirée, ce n'est pas la première fois qu'il intervient dans des débats publics de ce genre-là. Il est régulièrement dans Le Devoir, mais il a aussi publié il y a quelques années un livre qui s'appelait Impasse. Cul-de-sac, OK, qui portait sur les voitures ou contre les voitures. Donc, il n'est pas seulement contre Harper, il est aussi contre les voitures. Mais je pense qu'il n'est pas contre un petit coup de rouge ou de blanc. Et donc, je pense je peux dire au nom du public qui a assisté, merci beaucoup d'être présent sur la scène publique. Merci de défendre les valeurs libérales. même si j'en suis critique, je préfère les gens qui défendent les valeurs libérales que ceux qui ne les respectent pas.
C'est à moi de vous applaudir et merci beaucoup pour toutes vos questions et vos remarques. Ça a moins d'effet quand moi j'applaudis, par contre.